Gérard Moulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Ramplegest. On va parler avec vous de marché, de perspective sur ces marchés. Quand on regarde ce qui se passe depuis plusieurs semaines maintenant, on a l'impression que les investisseurs sont surtout préoccupés par ce qui se passe du côté politique, qui ne les empêche pas d'acheter des actions, notamment aux États-Unis. Est-ce que c'est effectivement le lot de tout investisseur en 2017?
Oui, alors les marchés sont positifs depuis le début de l'année, je crois excepté le MIB, l'indice italien. Donc ça n'empêche pas, comme vous venez de le dire, les marchés de monter. Mais en fait, non, il se passe des choses intéressantes au moment des publications. On pense qu'il faut tenir ses positions et, une fois de plus, garder les valeurs de qualité dans ce contexte politique compliqué.
Il y a quelques années, les sujets politiques intéressaient peu, il faut quand même le reconnaître, ils sont passés à côté. Alors il n'y avait peut-être pas les mêmes enjeux non plus. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, clairement, on voit des réactions sur les taux en Europe, par exemple.
Oui, bon, aux États-Unis, donc on a un candidat très spécial qui est passé, qui est plutôt un secrétaire d'État au commerce, si je peux me permettre, qu'un président. Il ne parle que d'entreprise, il n'a pas de vision globale et ouverte et intelligente comme son prédécesseur du monde, hein, donc ça pose énormément de problèmes. Je ne souhaite pas de malheur à Twitter, mais si Twitter va mal, peut-être qu'on arrêtera d'avoir ses tweets. Bon, en Europe, l'enjeu n'a jamais été aussi important. On a quand même en France, deux partis extrémistes qui font plus de 50%, c'est assez terrible. Donc ça fait peur aux marchés internationaux, bien sûr. Et on a le 15 mars, on en parle peu, mais avant ça, on a en Hollande, le 15 mars, des élections qui sont très importantes, où quelqu'un qui a des idées aussi extrémistes peut passer. Et là, ça serait la sortie de l'Europe, de la Hollande, qui est un pays quand même de 16 millions d'habitants, qui compte économiquement. Donc, c'est sûr qu'il y a des défis. En même temps, on est dans ce monde, il y a de plus en plus de chocs. Et si on attend que ça se calme pour investir en actions, à mon avis, on va attendre longtemps, parce que ça va être comme ça, de façon très, très à moyen long terme, quoi.
Oui, c'est ce qu'on peut entendre parfois en disant, bah là, j'attends, parce que j'y vois pas clair.
Non, faut pas. D'abord, parce qu'il y a un adage que j'aime bien, enfin une espèce de règle simple qui nous vient des États-Unis, qui est super simple et qui marche bien, c'est vous partez de 100% actions, votre capital petit quand vous commencez dans la vie, et vous enlevez 1% par an. Bon, donc si on fait comme ça, on est tranquille, on allège chaque année un tout petit peu, et on a une vision long terme de son capital, et ça se passe très bien, il faut arrêter. On a fait une étude, nous, sur 10 ans. Un secteur des spiritueux est en croissance de 135%, les cosmétiques de 140%, et ça va continuer. Il y a des secteurs qui performent sur le long terme, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne sert à rien.
Oui, c'est effectivement un point de vue sur l'investissement. Ça veut dire aussi quand même qu'il faut aller chercher des valeurs qui, effectivement, dans cette période, un peu compliquée, mais vont pouvoir aussi performer, sachant que peut-être qu'à un moment donné, elles seront vendues par la majorité des investisseurs.
Oui, parce que si vous voulez, il y a leurs résultats qui sortent régulièrement. Il y en a qui sont en croissance régulière, quel que soit le cycle économique. Et puis, il y a les fusions-acquisitions. Il y a des Chinois qui achètent beaucoup de sociétés occidentales. Ils montent au capital de grands groupes. Donc, ils sont là, ils vont acheter. Et c'est l'effet Trump aussi qu'il ne faut pas négliger. C'est que Trump, en mettant des barrières, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer beaucoup de fusions-acquisitions. Parce que si vous êtes occidental, hors États-Unis, que vous achetez une boîte américaine, vous bénéficiez de la fiscalité qui va baisser et vous n'avez plus ces soucis de problèmes douaniers. Donc je pense qu'il va y avoir, personnellement, je pense qu'il va y avoir une vague d'acquisition de sociétés américaines par des non-américains pour aussi contrer l'effet Trump, profiter d'un... Puis le dollar devrait être encore plus fort dans les années qui viennent. Donc le dollar, peut-être que c'est encore le moment d'y aller. Bon, Danone et Air Liquide l'ont bien fait parce que c'était encore avant la hausse. On devait être à 1,12, on est à 1,05. Il y a toujours des choses à faire en bourse, franchement. Si on s'inquiète, c'est pas la peine, ça sert à rien.
Vous aviez-vous publié une étude sur Ferrari?
Oui.
Comment justement on regarde une société comme Ferrari? On connaît bien sûr les produits Ferrari, mais Ferrari en bourse, finalement, ça donne quoi depuis l'introduction?
Alors, ça donne plus 80% en 12 mois. Elle a été cotée d'abord aux États-Unis, puis depuis le début 2016 à Milan. Alors en fait, tout le monde connaît Ferrari, mais ce qu'on connaît moins, c'est le succès économique de Ferrari. Ils ne font que 8000 voitures par an. Ils en ont fait 400 de plus en 2016 qu'en 2015. Donc c'est une autre planète par rapport à Porsche, qui est à 180 000 voitures. C'est vraiment encore autre chose. Et donc, l'intérêt d'être actionnaire de Ferrari, c'est que les clients sont des gens tellement aisés qu'ils ne comptent pas. On peut leur proposer des choses originales, ils achètent. C'est un marché d'offres. Pour vous donner une idée, au quatrième trimestre 2016, Ferrari a augmenté ses prix de 11%. comme ça, voilà. Et quand ils sortent une supercar comme la Ferrari, c'est un modèle qui s'appelait la Ferrari il y a 2 ans, ils en ont vendu 499 pour être précis, c'est parti en 24 heures, 1 million de pièces, et 40% de marge d'exploitation dessus. Et en fait, c'est Ferrari qui choisit le client, disant il faut que vous ayez déjà 4 ou 5 Ferrari pour pouvoir acheter celle-là, pour éviter la spéculation. Puis après, ils sortent des séries limitées. Donc là, il y a les 70 ans de Ferrari qui vont être fêtés cette année. Il y a une série limitée de 50 véhicules au Japon, il y en a 40 aux États-Unis. Donc ça va être des modèles spéciaux avec qui vont valoir, je ne sais pas, 300 à 400 000 euros au lieu de 250 000. Donc, bon, c'est facile la vie pour un chef d'entreprise. Enfin, je veux dire, ils l'ont mérité parce qu'ils ont construit une notoriété, mais c'est plus facile que d'être patron de Carrefour. Hein. Parce que quand vous êtes patron de Ferrari, vous décidez du prix, vous décidez des deux options, et les clients disent oui, bon, on signe, où est-ce qu'on peut signer. Et quand ils reçoivent la boîte chez eux avec les clés qui ont été choisies pour les séries limitées, c'est comme un gamin qui a son super jouet, et puis c'est une histoire incroyable.
Alors là, on parle de l'échelle, à l'échelle de l'automobile, c'est petit, forcément. À l'échelle de rentabilité, c'est important.
Oui, 22% de marge d'exploitation.
Des groupes qui, justement, dans la période, vous êtes toujours, hein, vous, sur ce créneau-là, et dans cette période compliquée, on disait, bon, on vit avec, mais c'est quand même compliqué. Dans des grands groupes, il y a aussi des grands groupes qui peuvent tenir la distance.
Oui, on a des groupes qui accélèrent, qui mutent, malgré leur taille. On a, par exemple, LVMH qui a fait 8% de croissance interne l'année dernière. C'est incroyable, 8% de croissance interne sur un groupe de cette taille. Et là, on a l'effet Sephora. Donc Sephora est un category killer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire en fait ils sont en train d'écraser leurs concurrents. Il y a Vuitton qui est bien aussi. Et puis chez L'Oréal, il y a le digital. Le digital marche très fort chez L'Oréal, puisque c'est un truc qui représente déjà 8% des ventes et ça croît de 30%. Et ils ont été vraiment bons parce qu'ils sont partis il y a 5 ou 6 ans sur le digital, c'était pas évident et maintenant ils en récoltent les fruits. Donc L'Oréal, pour nous, peut faire 15% encore d'ici 12 mois, et LVMH aussi. On a toujours Thales aussi dans les grosses lignes, et Ferrari est première ligne du fond avec plus de 5% dessus.
Mmh. Ce qui veut dire qu'il y a pas, pour vous, il n'y a pas de biais sectoriel, vous allez choisir valeur par valeur.
Alors, on vient de faire une étude sur 10 ans qui montre l'intérêt du pricing power. C'est-à-dire que cette étude montre que sur 10 ans, il y a des secteurs dont les prix baissent chroniquement. Donc, on a fait une étude sur le prix des billets d'avion, les chambres d'hôtel, la facture de téléphone. Tout ça, c'est en déflation. Et puis, sur 10 ans, les cosmétiques, les spiritueux, le luxe, tout ça, c'est en croissance. Les maisons de retraite, 2% par an, en moyenne de hausse des prix des chambres de maisons de retraite. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous pouvez le faire sur Bloomberg, vous prenez le 600, vous prenez les secteurs, vous regardez sur 10 ans où sont les performances. Ben, les performances sont sur les secteurs qui arrivent à monter leur prix. Les spiritueux ont progressé de 135% en 10 ans, les cosmétiques 120%, puis vous avez les télécoms à plus 5%, les banques à moins 20%. Donc ça marche, je veux dire, on le fait parce que sur 10 ans, ça fonctionne, hein, c'est sûr.
Voilà, il y a des choses à faire en bourse malgré le climat. Merci Gérard Moulin.
Merci beaucoup.